Nous allons aujourd'hui poursuivre notre étude sur notre survol des 66 livres de la Bible. Nous sommes rendus au livre de 2 Samuel. Aujourd'hui, nous allons regarder la première partie. Donc, il va y avoir l'étude va se diviser en deux parties, celle d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine. Alors, comme on le fait toujours, on va aujourd'hui prendre le survol de 2 Samuel et on va examiner, comme à l'habitude, les éléments, certains éléments, comme l'arrière-plan, le but principal du livre, le plan du livre, les thèmes majeurs qu'il y a à l'intérieur de 2 Samuel, les personnages clés, les versets clés, les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et d'aujourd'hui, et aussi la place et la présence de la personne de Jésus-Christ dans le livre de 2 Samuel. Alors, on va débuter avec l'arrière-plan. D'abord, l'auteur, on croit que Samuel, qui était à la fois juge et prophète, a composé l'essentiel des deux livres, de 1 et de 2 Samuel. Et aussi, le texte nous dit qu'il a été aidé par Nathan et Gad pour les compléter. Alors, on peut lire cette affirmation-là dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 29, les versets 29 et 30. Ça dit, les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète, et dans le livre de Gad le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Alors, on croit qu'il y a aussi d'autres sources qui ont été utilisées dans la compilation de cette histoire, notamment ce qu'on peut lire dans le verset 18 du chapitre 1, le livre du juste qu'on appelle. La date de la composition du livre, le deuxième livre de Samuel, couvre une période qui s'échelonne sur 40 ans, donc les 7 ans du règne de David à Hébron, et les 33 ans du règne de David sur le Royaume-Uni de Juda et d'Israël, qui ont eu lieu entre l'an 1011 aller jusqu'à l'an 971 avant Jésus-Christ. Et il raconte les principaux événements qui se sont passés durant cette période-là. Alors, on peut parler aussi du cadre du livre. Alors, 2 Samuel peut être divisé en trois divisions. Les triomphes de David, qui vont du chapitre 1 aller jusqu'au chapitre 10 inclusivement. Les transgressions de David, qui sont décrites dans le chapitre 11. Et les troubles de David, qui sont dans les chapitres 12 à 24. Remarquez les trois divisions qui commencent par des T. Donc, triomphe, transgression, trouble, ça aide un petit peu à la mémorisation si jamais quelqu'un veut mémoriser un peu les divisions du livre. Alors, durant cette période, David accède au pouvoir et il exerce une influence sans précédent sur le plan national et aussi international. Cependant, il succombe à la tentation de la convoitise charnelle. Il commet l'adultère et aussi un meurtre et récolte les conséquences de son péché, aussi bien dans sa famille que dans la nation d'Israël. Alors, le deuxième point qu'on veut regarder, c'est le but principal du livre. La vérité clé du livre est que l'obéissance à Dieu amène la bénédiction et que la désobéissance entraîne le trouble, la souffrance et le jugement. Les 10 premiers chapitres décrivent Les récompenses de l'obéissance lorsque nous voyons David accéder au règne, d'abord sur Juda, puis ensuite sur tout Israël. Les crimes de David, qui sont son adultère et le meurtre, qu'il a fait commettre, les crimes de David qui sont décrits dans le chapitre 11, ça marque définitivement le point central du livre. Après cela, la vie de David est une chronique de troubles et de misères, la mort de son bébé enfant, bébé nouveau-né, l'inceste qui se produit dans sa famille, et le meurtre parmi ses propres enfants, et aussi la rébellion contre sa royauté. Même si le livre démontre que l'obéissance et la désobéissance à Dieu d'une personne a des conséquences directes sur sa vie, il montre aussi qu'en dépit de ces conséquences, Dieu dirige et son dessein à long terme de bénir le monde et d'accomplir la rédemption se réalisera de façon certaine. Le but à long terme du Seigneur est évident dans l'alliance que Dieu fit avec David de lui donner une dynastie perpétuelle, soit le Messie. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. 2 Samuel chapitre 7 verset 16. Verset important pour comprendre la place de David dans l'arrivée future du Messie. On le répète, 2 Samuel 7 verset 16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Donc la promesse de cette dynastie est accompli en Christ qu'on appelle le fils de David. Troisième chose qu'on va regarder, c'est le plan du livre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter le plan du livre de deux façons différentes. Une d'une manière succincte, donc d'une manière courte, d'une manière résumée, et l'autre d'une manière un peu plus détaillée. Si quelqu'un écoute cette étude sur 2 Samuel sur Internet, sachez que vous pouvez télécharger les notes d'étude au format PDF et ça vous aiderait vraiment grandement à pouvoir suivre ce qu'on est en train de dire parce que c'est des tableaux et c'est difficile à exprimer comme cela sans qu'on voit parce que c'est vraiment un peu visuel aussi. Donc on va regarder la manière qu'on disait succincte, donc une manière facile et très résumée de l'ensemble des divisions du livre. On a parlé que des triomphes. Donc les triomphes de David, ça va du chapitre 1 aller jusqu'au chapitre 10 inclusivement. L'autre, quand on voit le tableau, on voit qu'il y a une colonne aussi pour les transgressions de David. Et il y a une troisième colonne pour les troubles de David. Donc les transgressions, comme on l'a déjà mentionné, sont décrites dans le chapitre 11. Et les troubles de David vont à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin du livre au chapitre 24. Si on revient sur les divisions, donc il y a une division qu'on parle des triomphes de David. Comment pourrait-on décrire de façon succincte les principales triomphes de David? Elles se situent à trois niveaux. Au niveau politique, qui va du chapitre 1 jusqu'au verset 25 du chapitre 5. Il y a des triomphes aussi de nature spirituelle, qui va du chapitre 6 aller jusqu'au verset 29 du chapitre 7. Et des triomphes militaires aussi, donc des conquêtes à partir du chapitre 8 aller jusqu'au chapitre 10. Donc si on regarde l'ensemble du triomphe de David, on peut voir que ceux-ci sont placés sous le signe de l'obéissance à Dieu. Quand on change de colonne, pour ceux qui ont imprimé, on voit les transgressions de David qui sont décrites dans les 27 versets du chapitre 11. Et quelles sont ces transgressions-là? Ben, ici, on les nomme l'adultère, donc lorsqu'il a couché avec Bathsheba, qui était la femme d'un de ses généraux qui était en guerre et qui était en campagne militaire. Et aussi le meurtre. Le meurtre, il l'a pas fait directement, mais il l'a fait, il l'a un peu, qu'on pourrait dire, commandé, en plaçant le général, le mari de Bathsheba à un endroit dans le combat, en le faisant placer par son commandant. Le faisant placer à un endroit où il était à peu près sûr qu'il serait tué. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette section-là du chapitre 11? On voit ces transgressions, l'adultère et le meurtre. Et quelle est l'idée fondamentale? C'est vraiment la désobéissance de David face au commandement de Dieu. À partir du chapitre 12, on tombe dans la troisième colonne, on voit les troubles de David. À partir de ce moment-là, la vie de David s'est compliquée et il y a eu des troubles. À partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 24, on voit qu'il y a eu des troubles à plusieurs endroits. Premièrement, dans sa propre maison, donc dans sa famille, et aussi ça s'est répercuté jusqu'à des troubles dans la nation, qui vont du chapitre 13 aller jusqu'à la fin. Et quelle est l'idée fondamentale de cette section-là, de cette partie du livre-là, des troubles de David? C'est vraiment celle du jugement de Dieu. Alors, on parlait de deux façons succinctes, c'est ce qu'on vient de voir, une présentation un peu plus détaillée de 2 Samuel. On reprend les trois parties. On fait ça rapidement parce que vous pouvez imprimer les leçons, et c'est beaucoup plus facile après. Lorsque vous lisez le livre de 2 Samuel, ça serait une excellente idée, avant de commencer votre lecture, d'aller revoir ces divisions-là. Ça vous aide beaucoup à la compréhension du livre. Donc, on avait parlé qu'elle était... On fait une présentation un peu plus détaillée. Donc, on parle des triomphes de David, qui vont du chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. Alors, on a les triomphes qui sont de trois natures. Les triomphes politiques. Donc, il y a le règne de David à Hébron sur Juda. Et aussi le règne de David à Jérusalem, à quelque part. Donc, alors, on a les divisions, les versets de David à Hébron, c'est sur chapitre 1 jusqu'à 4:12. Et le règne de David sur Jérusalem, à Jérusalem, c'est du verset 1 du chapitre 5 jusqu'au verset 25 du chapitre 5 aussi. On voit que dans les triomphes, il y a aussi des triomphes de nature spirituelle. À l'intérieur de ça, il y a deux principales idées. Le transport de l'arche, dans le chapitre 6, et l'institution de l'alliance davidique. L'alliance davidique, on l'a vu tantôt, c'est la promesse de Dieu d'assurer à David le Messie qui viendrait par sa lignée. Et la troisième idée, c'est vraiment les triomphes militaires. Donc, on voit dans cette section-là, à partir du chapitre 8, le triomphe de David sur ses ennemis et le règne de justice de David aller jusqu'à au chapitre 9-13. Deuxième partie, les transgressions de David. Donc, on a le péché d'adultère qui est décrit dans les 5 premiers versets du chapitre 11. Et on a le péché de meurtre qui va du chapitre du verset 6 au verset 27 du chapitre 11. Donc, on avait vu dans cette section-là que Uri, qui était le mari de Bathsheba lorsqu'il est venu en permission pour le roi l'avait fait appeler, il n'a pas couché avec Bathsheba. Donc, c'était très difficile pour le roi d'accuser Uri d'avoir mis sa femme enceinte, parce qu'il lorsqu'il était en campagne militaire, il n'a pas couché avec. Et David, il commande le meurtre d'Uri. C'est un meurtre de façon indirecte, mais c'était un meurtre quand même. Et aussi, on a dans cette section-là, David qui marie Bathsheba, dans le chapitre 11, les versets 26 et 27. Dans la troisième partie, on a les troubles de David. À partir du chapitre 12, David n'a que des troubles. Donc, il y a des troubles qui se produisent dans sa maison. D'abord, il y a la prophétie de Nathan. Ensuite, il y a le fils de David qui meurt. Troisièmement, il y a la loyauté de Joab à David. Quatrièmement, il y a l'inceste dans la maison de David. Et cinquièmement, il y a Amnon qui est assassiné dans le chapitre 13. Et ensuite, on voit les troubles que tout cela a occasionnés dans la nation. Donc, il y a eu, suite à ça, la rébellion d'Absalom, le meurtre d'Absalom, et David qui est restauré comme roi, et le commentaire sur le règne de David. Alors, bien entendu, moi, je considère que c'est un outil extrêmement utile que d'utiliser les plans de chacun des livres lorsqu'on lit le livre. Avant de le lire, on s'imprègne de ces idées-là et on voit très bien toute la structure du livre à l'intérieur du plan. Et après, quand on le lit, ça nous aide beaucoup à comprendre. Alors, on était rendu au quatrième point, les thèmes majeurs. Alors, un des thèmes majeurs du livre, c'est le maintien divin et la solidité de l'Alliance. Alors, le Seigneur demeure fidèle à ses promesses, malgré les chutes et les infidélités des hommes. La promesse de Dieu, qui est faite à David, que de sa descendance viendrait le Messie, en est une excellente illustration. Les événements de la promesse faite à David ressemblent remarquablement à ceux d'Abraham, des promesses faites à Abraham. Alors ici, dans la page 5 de ceux qui vont imprimer la leçon, vous avez un tableau qui forme un parallèle entre ce que Dieu avait promis à Abraham et ce que Dieu a promis à David. Vous avez deux colonnes, donc les promesses à Abraham avec les versets, les promesses faites à David avec les versets, et vous avez les différentes promesses, et là, vous avez une comparaison. Alors, c'est intéressant. Donc, on voit que Dieu avait promis à Abraham un grand nom, dans Genèse 12. Il fait la même chose avec David dans 2 Samuel, chapitre 7. Il avait promis à Abraham un pays pour leurs descendants. On voit encore la même idée dans Genèse 12. Et on voit que David avait eu aussi cette promesse-là dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 10. Il avait promis à Abraham qu'il deviendrait une grande nation. Et il fait la même chose avec David dans 2 Samuel 7, 12. On a aussi l'idée qu'à Abraham, il avait promis que de lui descendrait une lignée royale. On voit cela dans Genèse 17, verset 6, et on le voit également pour David dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 16. Et Dieu avait promis à Abraham qu'il serait leur Dieu, Genèse 17, verset 7. Il a promis la même chose à David, qu'il serait son Dieu, 2 Samuel 7, 14. Et il avait promis à Abraham que la promesse serait perpétuelle, donc Genèse chapitre 17, verset 7, et pour David, c'est dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 13. Donc, on va regarder aussi l'autre idée qui est les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance. Donc, Dieu, à l'intérieur de ça, va montrer le maintien divin et la solidité de l'Alliance, et il va également montrer les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance, autant sur le plan personnel que sur le plan national. Le cinquième point qu'on va regarder, c'est celui des personnages clés. Bien entendu, dans 2 Samuel, le personnage clé, très certainement celui du roi David. Alors David le choisit, Dieu le choisit pour remplacer Saül comme roi d'Israël. Il va unifier les tribus d'Israël, il va amener la paix et il va trouver faveur avec Dieu. Alors Dieu fait une alliance avec lui en lui promettant qu'un de ses descendants serait assis sur le trône pour toujours, soit le Messie. Très intéressant de noter ça dans ce livre-là, c'est très important aussi. Bathsheba aussi, il y a un autre personnage, Bathsheba, c'est Alors, David éprouva du désir de convoitise envers elle, même si elle était mariée à l'un de ses loyaux officiers. David coucha avec elle. Après que David eut fait assassiner son mari sur le champ de bataille, il l'épousa. Bathsheba devint enceinte. Le bébé qui naquit de cette union mourut à cause du péché de David, et Bathsheba donna ensuite naissance au roi Salomon. Autre personnage important dans 2 Samuel, c'est celui de Nathan. Alors le prophète de Dieu vint vers David avec une parabole ingénieuse qui dénonçait le péché de David. Immédiatement, David reconnut son péché, se repentit et accepta la punition de Dieu. Autre personnage important, c'est le fils de David, Absalom. Alors, on sait qu'Absalom a conduit une rébellion contre son père et il a eu du succès au début, mais tout tourna à la catastrophe lorsque les généraux fidèles de David le chassèrent hors de Jérusalem et le tuèrent. Bien entendu, un autre personnage important, c'est celui de Salomon. Alors, Salomon était le fils de David et de Bathsheba. On peut le lire dans 2 Samuel 12, versets 24 et 25. Ça dit, « David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète et Nathan lui donna le nom de Jedidia à cause de l'Éternel. Le nom de Jedidia signifie « aimé de l'Éternel ». On est rendu au sixième point. Dans le sixième point, on a les versets clés. 2 Samuel chapitre 7, versets 11 à 16. C'est vraiment le chapitre où on parle de ce qu'on appelle l'alliance davidique, donc l'alliance de Dieu avec David. Alors, je vous les lis à partir du verset 11. « Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes, avec le cou des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affirmé. » Alors, on a aussi, dans le septième point, les leçons pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu d'alors. Alors, Dieu est fidèle à son alliance en dépit des échecs et des faiblesses des hommes. Le Seigneur enseigne à son peuple que l'obéissance attire sa bénédiction et que la désobéissance attire des problèmes et son jugement. Il enseigne que notre péché nous atteindra et que nous devrons vivre avec ses sévères conséquences temporelles. On peut lire cette idée-là dans Nombre, chapitre 32, verset 23, « Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. » Alors, ça, c'était les conséquences pour le peuple de Dieu d'alors, le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Alors, le livre nous apprend que l'œuvre de Dieu doit se faire selon les voies de Dieu. Et l'histoire d'Uza, dans 2 Samuel, chapitre 6, versets 4 à 7, est vraiment riche d'enseignements sur ce côté-là. Alors, on lit le petit passage. « Ils l'emportèrent donc de la maison d'Aminadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourra là, près de l'arche de Dieu. Le livre aussi nous donne des leçons sur les dangers de la polygamie. Et 2 Samuel nous met en garde contre la tentation d'avoir un jugement obscurci par l'affection familiale. Alors on a les réactions de David au péché d'Amnon et d'Absalom. Alors on voit que David, lorsque c'était des questions de famille, avait tendance à surprotéger ses enfants. Ça nous montre que c'est vraiment un péché grave que d'avoir un jugement qui est obscurci à cause de notre affection. De Dieu ne nous dit pas de ne pas avoir d'affection pour nos enfants, mais il nous dit que notre jugement ne doit pas être obscurci à cause de l'affection familiale. Le livre nous donne aussi de grandes leçons sur la foi que l'on doit maintenir dans les promesses de Dieu et sur les dangers et les conséquences du péché du point de vue temporel. 8e point, on est rendu à la place et la présence de Jésus-Christ. Alors, on voit dans Ézéchiel, chapitre 34, versets 23 et 24, « J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Alors, cet usage à titre posthume du nom de David, en rapport avec le Messie promis, permet au moins, s'il ne le recommande pas implicitement, de considérer la vie de David comme un type de Christ. On peut tracer de nombreux parallèles entre David et Christ. Le premier fut oint 3 fois, d'abord dans la maison de son père, ensuite sur Juda et finalement sur tout Israël. Dieu a oint Jésus de Nazareth d'une huile de joie dans la maison du Père, sur l'Église qui est son peuple, et enfin sur toute chose. Alors on voit le parallèle. Bien qu'ayant reçu l'onction royale, David connut l'exil pendant de nombreuses années, alors que Saül régnait sur Israël. De même, le Seigneur est rejeté par le monde et le Dieu de ces siècles règne dans le cœur des hommes. Comme David, le Sauveur rassemble autour de lui une bande disparate de disciples. Alors, il y a un tableau à la page 9 qu'on voit David comme type de Christ. Alors, on voit les principales caractéristiques. Je vous laisse aller regarder le tableau par vous-même. Mais les principales choses qui sont comparées entre David et Christ, c'est qu'il était un de ses frères. Deuxième caractéristique, il était celui par lequel le Seigneur deviendra son peuple. Il était oint, il était haï sans cause, et il eut des royaumes opposés, et il s'était entouré d'une bande hétéroclite de disciples, et on voit aussi qu'il accorde le pardon aux pécheurs. Je vous laisse le soin d'imprimer les tableaux et de regarder en détail un peu tous les versets qui comparent l'ensemble des choses de la vie de David avec celle de Christ. Il y a plusieurs parallèles extrêmement intéressants. Alors, on voit aussi là-dedans qu'il avait été trahi par un intime et que le traître finit par se pendre. Dans l'histoire de David, c'est Achitophel, l'autre c'est Juda. Et les païens aussi souffre rejet du roi, possède les... Alors, je vous laisse aller regarder tout ça, parce que c'est... Je ferai juste vous le lire, c'est... Il faut vraiment regarder le tableau et comparer les deux choses pour vraiment en apprécier toute la richesse. On peut aussi établir des parallèles intéressants entre David et Méphibosheth comme type de Christ et aussi comme type des pécheurs. Alors, à la page 11, vous avez aussi un tableau où on fait une comparaison du personnage de Mephibosheth avec celui des pêcheurs. Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'à l'intérieur des livres, on parle beaucoup de Christ ou de choses qui ont un rapport avec Christ à venir. C'est très intéressant de regarder ces choses. Je vous conseille de les imprimer et des étudier un petit peu plus en profondeur, vous allez être bien. Alors, on va terminer là-dessus en rappelant, comme application de notre étude, que la vie de David est extrêmement riche en enseignements spirituels. Et on se doit d'implorer le Seigneur de nous les montrer, de nous les enseigner et de nous les faire mettre en pratique. Tout cela par sa grâce et pour sa gloire. Amen.